Donc on va avoir un culte, on va essayer comme la dernière fois de faire un culte un peu biais hein, dans cette nouvelle technique. Donc voilà comment ça va se dérouler. D'abord on va avoir un moment de louange, mais on s'est rendu compte la semaine dernière que transmettre des chants par mythe, ça marche pas. Donc je vous ai envoyé à tous un email où on a mis les liens sur deux chants sur YouTube. Je vous ai aussi envoyé les paroles. Alors on va faire ça comme ça. Quand on arrivera au moment de louange, après que Suzy ait fait une petite introduction, vous pouvez vous déconnecter d'une manière ou d'une autre. Et puis, vous avez un quart d'heure pour écouter ces chants, chanter et prier ensemble. Et puis après ce quart d'heure, on se rejoint pour le message que je vous donnerai.
Qui sera court.
Suzy me répète depuis hier, en continu, tu dois être court, tu dois être court, tu dois être court. Tu vois, merci Denise de dire que tu as... Non, mais je vais essayer d'être court. Mais on va simplement commencer par remettre ces moments. Seigneur Jésus, on est vraiment heureux de se retrouver. Merci parce que cette période, on a l'impression qu'elle est, en tout cas pour le moment, un peu derrière. Jusqu'à quand, on n'en sait rien. Toi, tu le sais. Mais on aimerait te remercier pour ce qu'on vit maintenant. Et te dire, Seigneur, notre confiance en toi, pour le présent comme pour l'avenir. Mais on est heureux d'être ensemble. Et on te prie d'être présent dans ces moments, et de nous conduire, nous bénir, de nous permettre de te voir, de t'admirer, de comprendre qui tu es. Merci d'être présent ici, dans cette salle, et puis chez chacun de ceux qui sont là. Et puis aussi chez ceux qui sont simplement seuls chez eux, qui n'ont pas rejoint des groupes. Seigneur, on est ensemble, on est l'Église et on en est vraiment conscient. Alors, merci d'être là. Amen. Donc, je passe la parole à Suzy.
Bonjour chacun. Vous êtes choux. J'aimerais juste commencer par un très court témoignage. On a vécu loin les uns des autres, mais nous, avec Frédéric, on a continué d'aller au culte, on a été au culte à l'oratoire, et on a été au culte de Pentecôte. Et au culte de Pentecôte, on était invités à être remplis de l'esprit. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais Vincent a dit à la fin, témoignez de ce que vous avez vécu. Alors, je vais juste le dire, être rempli de l'esprit... Et puis, comment être rempli de l'esprit? Eh bien, c'est repentez-vous, faites-vous baptiser, demandez et recevez. Et puis moi, je me rendais compte qu'il y avait déjà un certain temps que le fond, vous savez, ce qu'il y a au fond de nous, c'était pas forcément la paix, la joie, Mais il y avait un fond de colère diffuse dont j'arrivais pas à me débarrasser. Puis je viens, puis je dis, oui, j'aimerais être rempli de l'esprit. Alors une petite voix à l'intérieur me dit, mais pardonne. Ben, j'ai dit, ben oui, Seigneur, ben oui, je veux pardonner. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment d'être lavé. Et la colère est partie avec ce lavage. Donc ça me fait réfléchir à qu'est-ce que c'est d'être rempli de l'esprit. Alors on va juste voir ensemble, en introduction de la louange, Galates 5, 22. Qu'est-ce que l'esprit produit en nous? Si on est rempli de l'esprit, qu'est-ce que ça donne? Daniel, si tu peux le mettre. Le fruit de l'esprit, donc ce que l'esprit produit en nous, ce qu'il veut le faire, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et pourquoi est-ce que l'esprit produit ça en nous? Parce que Dieu est amour. Vous avez réfléchi que Dieu est toujours amour. Il est l'amour. Il n'y a pas d'amour sans Dieu. Il est. C'est sa nature même. Et même quand Dieu se met en colère, je fais exprès de prendre la colère, il y a des versets où on voit que Dieu exprime sa colère. Bonjour, Mathias. Quand Dieu exprime sa colère, il reste amour. Ce n'est pas quelque chose qu'il met de côté. Non, il reste amour. Il est toujours joie. Il est la source de la joie. Même quand il est irrité ou quand Jésus pleure sur Jérusalem, il reste foncièrement joyeux. Il ne la perd pas. Il est la paix. Il est la patience. Alors ça, on aime parce qu'il est patient avec nous. Mais des fois, on n'aime pas. Parce qu'il nous fait patienter. Et ça, la patience, c'est ce que l'esprit produit en nous. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Dieu est tout ça en même temps. La maîtrise de soi, Jésus disait, « Mais je ne fais rien que le Père ne nous montre pas, ne me montre pas. » Il est venu pour faire la volonté du Père. Il est maître de lui-même. Entièrement soumis à Dieu. Alors je vous ai donné mon petit témoignage parce que je me rends compte que j'avais envie de retrouver la joie, la paix. Mais retrouver la joie et la paix si je ne veux pas de la bienveillance, si je ne veux pas être bonne avec les autres et que je garde ma colère, ça ne joue pas. Dieu veut produire en nous le tout le paquet. Alors ça nous conduit au premier chant. Je vais le lire, puis ensuite, ceux qui sont avec nous, j'espère qu'ils sont encore avec nous, vous pourrez les écouter sur YouTube. Ce chant s'intitule « Fixant les yeux sur Jésus ». Si je regarde à moi ce que je fais parfois, il n'y a souvent que honte, crainte et découragement. Si je regarde aux autres, que de déceptions parfois. Donne-moi, ô Seigneur, de fixer les yeux sur toi. Toi qui t'es donné pour me sauver, toi par qui je peux m'approcher du Père, toi par qui je suis parfait, toi par qui je peux ne pas pécher, toi qui aimes tous mes frères et sœurs, tous, sans exception, même ceux qui m'énervent. Tous. Toi qui t'es donné pour eux, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus. Et ensuite on chantera ta bienveillance. Donc, à l'admi. On se retrouve à la nuit, à 32, ou quand vous avez fini, quoi. Reconnectez-vous.
Si je regarde à moi, ce que je fais parfois, il n'y a souvent que honte, crainte et découragement. Si je regarde aux autres, que de déceptions parfois. Donne-moi, ô Seigneur, de fixer les yeux sur toi. Je peux m'approcher du Père, toi par qui je suis parfait, toi par qui je peux ne pas pécher, toi qui aimes tous mes frères et sœurs, toi qui t'es donné pour eux. Courons avec patience.
a révélé ton Père.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons.
Dans nos vies, sa fidélité, sa bonté.
Marchons en paix, suivant son droit, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main.
Ok. Donc, au programme maintenant, je vais donner un message que j'espère pas trop long. Et puis ensuite, on prendra congé de ceux qui sont loin et chacun dans son lieu, on aura un moment de partage. Et je terminerai le message en donnant quelques questions ou plutôt quelques incitations pour la discussion. Donc, vous resterez ensemble pour discuter et puis pour prier ensemble. On terminera comme ça. Ok. Alors Daniel, j'ai un PowerPoint. Daniel passera de temps en temps une image, mais on ne restera pas longtemps sur l'image. Vous aurez le privilège de me regarder plutôt. Tu passes peut-être la première image, s'il te plaît. Voilà. Au début de l'année, je vous avais envoyé à tous mes bons vœux. Suzy et moi, nous vous avions envoyé nos bons vœux. Et avec ces bons vœux, j'avais mis, comme vous le voyez sur l'écran, un petite carte avec un certain nombre de versets. Et ces versets, c'est quelque chose que depuis ce moment, je lis et sur lequel je prie tous les matins avant de faire ma lecture biblique. Donc, ma lecture biblique, elle est orientée par cette prière ou par ces prières. tous les jours, maintenant depuis bientôt 6 mois, je relis ces versets. Et entre autres, si Daniel, tu peux passer le dia suivant, entre autres, le premier est quelque chose qui me frappe presque chaque matin. Pas toujours, des fois à moitié endormi, ça vous passe par-dessus, mais en général, ça me frappe. C'est psaume 119, verset 36, qui dit « Incline mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. » Et ce qui est frappant, quand vous commencez votre lecture biblique avec ça, c'est que vous vous rendez compte que presque quoi que vous lisiez, que beaucoup de choses qu'on lit dans la Bible sont comme un écho de ceci. Incline mon cœur vers tes enseignements, mais surtout plutôt que vers mes intérêts. Ne pas chercher ses intérêts. C'est central. Si vous voyez l'exemple de Jésus, c'est quelqu'un dont il est dit qu'il ne cherchait jamais son propre intérêt. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Je ne recherche pas mes intérêts. C'est au-delà de notre compréhension. On cherche toujours son intérêt, on cherche son bonheur, on cherche ces choses-là. Incline mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. C'est profondément ancré en nous. Et cependant, la Bible dit, quand on parle du Saint-Esprit, Suzy a parlé du Saint-Esprit, quand on est rempli, quand on vit de l'Esprit, il y a une différence. On marche selon l'Esprit, on marche selon la chair, on marche selon ses propres intérêts ou on marche autrement. En lisant ça, ce verset tous les matins, ça me rappelle ça et je le ressens très profondément. C'est fou ce qu'on est centré sur ses propres intérêts. Et même spirituellement, qu'est-ce que je demande dans mes prières? Des choses qui correspondent à mes intérêts. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche, quand je vais vers Dieu, je cherche à être béni, je cherche à être consolé, encouragé, j'ai envie de recevoir l'approbation de Dieu, j'ai envie que ma vie ait du sens, j'ai envie d'être utile. Je prie, une chose qui m'a frappé parce que c'est un peu la mode ces temps, à rechercher l'onction. On vous dit maintenant, recherchez l'onction de Dieu pour pouvoir être efficace, pour pouvoir bénir, pour pouvoir faire du bien. Recherchez l'onction. Je cherche à être rempli de l'esprit, je cherche à avoir une autorité spirituelle, je cherche les dons spirituels, je cherche des choses qui sont bonnes, et toutes ces choses sont bonnes finalement. Mais très profondément, on réalise... On les cherche pour nous-mêmes, pour notre réalisation, pour être bien finalement, pour être utile. Je veux faire du bien. C'est mon intérêt. J'ai envie de me sentir bien. Et c'est pas faux, mais il y a un problème. C'est que quand je recherche ces choses, ça me pousse à voir Dieu, non pas comme Dieu, mais comme une espèce de source de bénédiction, dans quelqu'un qui me bénit, dans quelqu'un qui m'apporte des choses. Je suis centré sur mes intérêts. Je cherche Dieu pour moi. Et ce verset dit, incline mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. On est centré sur soi. Comment peut-on être alors détourné de cette recherche, comment on peut faire que ceci soit différent? Le verset, il dit quelque chose qui est surprenant. C'est « Incline mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mon intérêt. » On aurait tendance à dire « Incline mon cœur à voir les intérêts de Dieu plutôt que mes propres intérêts. » Non, « Incline mon cœur vers tes enseignements. » C'est dans le psaume 119. Et le psaume 119, il parle toujours de ça. Vous le connaissez un peu. Il nous dit... Alors, il ne parle pas toujours d'enseignement. C'est de la poésie. Et quand on fait de la poésie, on ne va pas répéter toujours les mêmes mots. Alors, il emploie un tas de synonymes. J'ai noté, il emploie... Tourne mon cœur vers tes instructions, vers tes lois, vers tes commandements, vers tes prescriptions, vers tes paroles, vers tes décrets, vers tes sentences. Et toujours là derrière, dans ce psaume 119, c'est... Tourne mon cœur ou oriente-moi vers vers les Écritures, vers la loi, vers les enseignements. Tourne mon cœur vers la Bible, vers les Écritures. C'est le cœur de ce psaume. Et vous savez, la seule ou la, non, la principale ressource qu'on a pour, comment dire ça, pour ne pas travailler, rechercher des choses qui sont finalement des illusions que nous recherchons nous-mêmes, ben, la seule chose qui peut changer notre vision des choses, qui peut nous rendre différents, c'est les Écritures. C'est les Écritures, c'est la Bible. On est dans un monde où on a des messages qui nous disent tous ben, « cherche tes intérêts ». C'est normal. Et les Écritures sont là pour nous permettre de changer de vision. Et ce n'est pas un changement facile, changer de vision. Ça demande de l'énergie, ça demande de la persévérance, ça demande de connaître les Écritures, ça demande de lire la Bible, ça demande d'investir là-dedans. Je vous ai dit que ce verset du psaume 119, verset 36, « Incline mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts », je l'ai lu maintenant peut-être 150 fois. Et c'est après plusieurs, je dirais, semaines ou mois que tout à coup, ça a commencé à prendre vie. C'est après un certain temps que j'ai commencé à lire la Bible, et puis avec cette lumière-là, il y faut de l'énergie. On a en nous quelque chose qui nous empêche de faire ça. Et Dieu, il dit « Incline mon cœur ». Il y a un chemin à faire. Ce n'est pas la première fois que vous lisez la Bible, vous apprendrez quelque chose. C'est en creusant, en avançant, en connaissant un peu la vision que Dieu nous donne de la vie dans la Bible, qu'on commence à être transformé et que tout à coup, non pas tout à coup, justement pas, petit à petit, notre vision change. Ce n'est pas la première fois qu'on vous exhorte à lire la Bible. Tout le monde sait qu'on a besoin de la Bible. Mais je me suis dit, est-ce qu'on le croit vraiment? On le sait. Mais si on le croyait vraiment, on investirait peut-être davantage dans la lecture de la Bible. Moi, ça m'étonne toujours en parlant avec des gens de voir à quel point... Alors, je ne sais pas ce que vous faites, vous, mais ça me frappe de diverses manières à quel point ce n'est pas quelque chose que les gens font, vraiment. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un dire, on avait lu un passage, je ne sais plus, dans un prophète ou quelque chose bizarre. Tu te rappelles ce que c'était?
Passe à autre chose, s'il te plaît.
Oui, mais c'était quelqu'un parmi vous. Hein, c'est, mais je sais. Hein, mais il m'a dit, mais il y a des années que je n'ai pas relu ce passage. Et je me suis dit, mais c'est vrai. Il y a des passages, il y a pas des années que je ne les ai pas lus, parce que je les lis toujours, mais il y a des passages, il y a des années que je n'ai pas réfléchi, qui ne m'ont pas parlé vraiment. Je crois ça, mais est-ce que je le vis vraiment? Vous voyez, il y a un ennemi qui cherche à nous y empêcher, et c'est vraiment important.
Il te reste 2 minutes.
Excusez-moi, mais je prends beaucoup trop de temps, alors que j'arrive à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est les enseignements? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans la Bible? Qu'est-ce qu'il y a au cœur de la Bible? Ben, l'autre chose que je fais depuis quelque temps, c'est de réfléchir au royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est exactement ça. Il règne. C'est qu'est-ce qu'il veut? Quel est son plan? Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Eh bien, le passage le plus clair pour ça, c'est le discours sur la montagne. Et comment il commence? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, ce que Dieu veut, eh bien, il est destiné, il est pour ceux qui sont pauvres en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être pauvre en esprit? Pas besoin de faire des grandes explications, on peut aller vite, parce qu'il y a une traduction de la Bible, c'est la seconde 21, qui dit ça de cette manière-là, et c'est parfaitement clair. Écoutez bien. « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car leur royaume des cieux leur appartient. » Être pauvre en esprit, c'est reconnaître ma pauvreté, mon incapacité, mes limites spirituelles. Le plus grand obstacle qu'on a ce qui nous empêche d'être focalisé sur notre propre intérêt, c'est de croire finalement qu'on est capable de ne pas chercher son propre intérêt. On doit reconnaître qu'on est pauvre, on n'y arrive pas. On est des pauvres spirituels. Croire qu'on n'est pas des pauvres spirituels, d'abord, c'est une illusion. C'est une illusion parce qu'on est pauvre, directement. Il n'y a rien qu'on puisse obtenir de nous-mêmes. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est, vient de Dieu. Qu'on soit croyant ou pas croyant, il n'y a rien qui ne vienne pas de Dieu. C'est lui qui nous a conçus, qui nous a créés, c'est lui qui nous permet de vivre, c'est lui qui a créé cet environnement. Tout vient de Dieu. Donc c'est une illusion de croire qu'on peut être indépendant. Non, on est pauvre. Puis c'est une illusion de croire qu'on sait ce que sont nos intérêts. Pourquoi il faut reconnaître qu'on est pauvre? Ce qui est bien pour moi, je n'en sais rien. Mais vraiment rien. On a l'impression qu'on sait ce qui est bon pour moi, notre intérêt. Ben non. Quelqu'un qui est pauvre spirituellement, il réalise que non, il ne sait pas vraiment ce qui est bon pour lui. Ce qui nous arrive, Dieu le veut. Et des fois ça nous arrange, des fois ça nous dérange, mais en fait, on n'en sait rien. C'est une illusion de croire qu'on est riche spirituellement. Qui est gênante. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle nous cache la réalité de Dieu. Quand je crois que je peux contrôler les choses, quand je crois que je peux faire bien, quand je crois que je suis spirituel, l'expérience montre, son expérience personnelle et ce qu'on voit chez les autres, ça nous démontre vite qu'on est dans l'illusion. Ça nous coupe de savoir ce qu'est vraiment Dieu. On croit que Dieu est comme ça, et puis en fait, il est autrement. Il faut être pauvre spirituellement pour savoir que ce qui arrive, ce que je vois, c'est de Dieu. Ce n'est pas à moi, ça vient de Dieu. Et se croire fort spirituellement, ça nous enferme de nous-mêmes. Si je crois que je suis fort spirituellement, j'ai ma force. Non, je dépends de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure, j'aime bien ce que j'ai remarqué. Délivre-moi de la folie de mes projets. Un pauvre spirituel est délivré de la folie de ses projets. C'est-à-dire, il voit, il discerne que ses projets peuvent être folie. Et c'est vraiment important. Je suis pauvre. Je ne suis incapable. Mais alors, si je suis pauvre et incapable, est-ce que ça me conduit à rien faire? Si je peux... J'ose pas faire quelque chose si je sais que je vais me planter parce que je suis pauvre, je suis incapable. Non. Pourquoi? Parce que on a des besoins. Franchement, la vie est telle que on va pas pouvoir rester à rien faire comme ça. Les difficultés de la vie nous forcent à réagir, nous forcent à bouger. Ça crée une dynamique, vous allez pas vous satisfaire, je suis pauvre spirituellement. Non, parce que il y a la souffrance, il y a les difficultés, il y a les défis, tout ça nous oblige à bouger. Mais bouger comment? Le verset qu'on a lu, il dit « Incline mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. » Incline mon cœur. Priez, demandez. Pour recevoir, pour que Dieu nous donne ce dont on a besoin, dont on est incapable de faire, il nous dit « demandez ». Dieu, il nous dit « mais vous êtes responsable ». Il ne va pas nous faire des choses, en général, ça lui arrive, mais sans qu'on le veuille, il ne va pas nous forcer. Priez. Et le psaume 119 est plein de prières. Incline mon cœur. je demande à Dieu, incline mon cœur, opère en moi, je te donne l'autorisation, je fais la demande de toucher mon cœur pour tes enseignements, pour recevoir ce que les Écritures disent, pour que ça soit vivant. Et je ne vais pas prier contre mes intérêts. C'est incline mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Reconnaissant que Dieu sait quels sont mes intérêts réels et il veut le donner et il est prêt. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de prier pour ce que j'ai envie, pour mes intérêts, mais savoir que ces intérêts viennent et cette chose-là, elle vient de Dieu. Et ça change la prière. Si je ne sais pas ce qui est bon pour moi, je ne vais pas dire à Dieu « fais cela ». Je vais dire à Dieu « je ressens ce besoin, donne Seigneur ». Vous voyez, vous le savez aussi bien que moi, mais on a vite cette mentalité de « si je demande à Dieu, eh bien, il me doit, il va me répondre ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Lui sait, et on l'a chanté, ça m'a touché vraiment, il est bienveillant. Il va donner ce dont j'ai besoin. Il ne donnera jamais des choses dont je n'ai pas besoin. Alors on a deux ressources pour vivre vraiment notre vie, la prière et les Écritures. Je suis pauvre en esprit. J'ai besoin de cela. Sans cela, je vais avoir une vie qui file dans le creux, dans le vide. Les Écritures et la prière. Le Saint-Esprit est là, on en a besoin, mais il est là et il va faire deux choses. Il va incliner nos cœurs et il touche en nous pour qu'on ait ce désir-là. Et il va prendre les Écritures, le message de Dieu, et le rendre vivant pour nous. C'est son rôle. On peut compter sur lui. Amen.